Nous sommes trois professionnels de l'éducation du Conseil scolaire Viamonde. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK, en effet, nous avons toute la classe. Suivez-nous dans notre deuxième saison afin de poursuivre des conversations sur de nouveaux thèmes en éducation, tels que la réponse à l'intervention,
le bien-être,
les sciences,
les maths
et bien plus encore.
Bonjour à tous. Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur la RAI, la réponse à l'intervention. Nous avons premièrement discuté la théorie de la RAI avec notre directrice Manon Savard. Ensuite, en lien avec le concept de la responsabilité collective, au cœur de la structure de RAI, nous avons parlé à Steve Hall pour discuter du climat d'école. Aujourd'hui, nous retournons à la base de la pyramide pour parler des stratégies de haut rendement. Alors, pour commencer, mesdames, pourquoi est-ce qu'on retourne à la base de la pyramide?
Parce que si on commençait par le sommet, ça tomberait.
Non, ça c'est troisième année. Science dans
structure et mécanisme.
Ici, le mot-clé, c'est base large.
Exactement. Mais c'est vrai, parce qu'on veut commencer. La base de la pyramide, c'est les interventions, c'est l'enseignement qu'on fait à tous les jours. Et avant de monter dans les pyramides pour des interventions plus spécifiques avec des élèves qui ont besoin d'un appui plus soutenu, on veut s'assurer que la base est solide et que ce qu'on fait à tous les jours avec notre groupe classe, à tous nos élèves, est vraiment les meilleures pratiques possibles. Parce que ce qu'on fait comme stratégie universelle avec toute notre classe devrait rejoindre la grande majorité des élèves.
Alors, quand on parle de stratégie universelle, ça veut dire stratégie au niveau 1 de la pyramide.
Exactement. Alors, ce qu'on fait pour toute la classe en même temps, 100% de mes élèves sont devant moi, c'est l'enseignement de base que je fais à tous les jours.
Alors, je peux dire que j'utilise des stratégies de haut rendement dans les stratégies universelles que j'offre au premier niveau de la pyramide.
Exactement.
Alors, pour continuer notre discussion d'abord, mais c'est quoi une stratégie à haut rendement?
Excellente question.
C'est très important de le savoir comme enseignant parce qu'on veut s'assurer d'être le plus efficace possible. On n'a pas beaucoup de temps. On a des curricula très chargés et on veut s'assurer qu'on maximise l'apprentissage.
Absolument. On n'a pas le temps de faire une chose deux fois.
Non, ouais, exactement. Non. Et on est choyé de nos jours parce que, tu sais, avant, on faisait comme nous, on avait été enseignés dans notre salle de classe. Moi, je faisais ce que Mrs. Herbshot avait fait quand j'étais en deuxième année parce que je l'admirais beaucoup. Mais maintenant, on a beaucoup de données en neurosciences, en apprentissage, en éducation qui nous disent qu'est-ce qui est efficace. Alors, pourquoi perdre nos temps avec des pratiques désuètes qu'on sait ne fonctionne pas.
Absolument. Puis c'est la différence entre une stratégie et une stratégie à haut rendement. Celle qui est à haut rendement est soutenue, est basée, est appuyée sur la recherche. Alors, si on a, par exemple, le choix entre une stratégie X ou une stratégie de haut rendement Y, ben selon notre code de déontologie, selon notre norme de la profession, on devrait viser pour ce qu'on sait qui va avoir plus d'impact envers nos élèves parce que c'est notre responsabilité envers eux.
Et c'est ça que l'auteur John Hattie, dont on parle beaucoup, mais c'est parce que ses méta-analyses sont tellement impressionnantes puis bien fondées. Il dit qu'on a un devoir et une obligation morale comme enseignant de connaître notre impact en salle de classe. Et si on fait quelque chose qu'on sait, tu sais, et donne un impact moyen, on est obligé d'aller voir qu'est-ce qui est encore plus efficace et de mettre ça en place.
Alors ça, c'est sa citation qui dit
no, Teachers know thy impact.
Voilà.
Ouais. Alors là, tu viens de dire quelque chose, puis dans ta phrase, il y a un mot que j'ai pas vraiment compris. C'est le mot méta-analyse.
Oh, c'est parce que je l'ai inventé.
Ah, OK.
Non, c'est pas vrai. Alors, méta-analyse, c'est de prendre des recherches. Et alors, s'il y a une recherche sur l'enseignement réciproque dans une salle de classe, super. C'est très intéressant. Mais ce que lui, il a fait, c'est qu'il a pris plusieurs recherches. Alors, s'il y a une centaine, s'il y a 200 recherches sur un même facteur ou une même stratégie, lui, il fait une méta-analyse de toutes ces recherches, de toutes ces données pour voir quel est l'impact. Et puis, c'est plus fiable. Plus on a de recherches qui disent la même chose, plus c'est fiable.
Oui. Alors, c'est de dire que Hattie fait des analyses.
C'est ça. J'allais dire des résumés. Oui. Des résumés.
Et si vous regardez la bibliographie de rendre l'apprentissage visible?
Oui. Visible, oui.
Oui. C'est incroyable. Comme je ne sais pas comment il a géré tout ça, c'est vraiment impressionnant.
Ça s'appelle des fonds de recherche puis une grande équipe.
Oui, et un grand ordinateur.
Si on pense un petit peu, lorsqu'on parle des stratégies, on s'entend qu'il y en a plusieurs. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que toutes ces stratégies-là ont le même poids? Est-ce qu'ils sont aussi efficaces l'un et l'autre? Comment est-ce qu'on les classe? Est-ce qu'il y a comme un genre de barème? Je vous laisse la parole.
C'est une bonne question. Parce qu'il y a les stratégies à haut rendement, il y a les stratégies à haut rendement, à moyen rendement, et il y a les stratégies... Je me trouve très drôle.
En effet, okay. C'est drôle.
Parce que là, les deux filles étaient en train de me regarder comme...
Ouais.
Mais oui, absolument. Il y a une certaine une hiérarchie dans tout ça, puis c'est ce que Hattie nous permet de faire en fonction avec ses méta-analyses. Ces méta-analyses ont donné un coefficient à chacune des influences ou à chacune des stratégies, ce qui fait qu'en bout de ligne, on est capable de dire si une a beaucoup d'influence ou une stratégie a beaucoup moins d'influence.
C'est ça. Ouais. Puis lui, ce qu'il dit, c'est qu'un facteur, un coefficient de 0,4 ou... Bien, 2,4, c'est vraiment le point où au-dessus de ça, c'est plus efficace. En dessous de ça, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel on veut mettre beaucoup d'efforts d'emphase.
C'est le mot de cherche, c'est le point charnière.
Oh, excellent! Moi, je le connaissais en anglais, alors j'essaie d'éviter le terme parce que je le connaissais pas en français.
Ouais.
Mais c'est ça. Alors, il dit qu'à point 4, c'est vraiment les résultats que n'importe qui pourrait avoir avec un groupe d'élèves dans un an. Ouais. Alors, que ce soit une enseignante, que ce soit le facteur, que ce soit... Qui d'autre?
Un robot,
que ce soit par vidéo. N'importe qui avait un an à passer, 10 mois à passer devant des élèves, qui lisent, qui écrivent, qui fassent des maths pendant un an, c'est les gains moyens qu'ils vont obtenir.
Peu importe quoi, l'élève, comme il y aura cette efficacité-là. On aura un 0,4 d'efficacité. Peu importe c'est qui va l'enseigner, peu importe si... comme juste à cause de la maturité, à cause de l'âge de l'enfant, mais il va avoir acquéri les connaissances, peu importe c'est qui va être devant.
C'est ça. Jusque dans le négatif, avec les facteurs qui ont un impact néfaste
sur l'enseignement. Ici, je vais parler aux mathématiciens, là. En dessous de 0, on tombe dans le négatif.
Non!
Alors, si on regarde les stratégies que Hattie propose, du moment que... C'est sous 0, là. J'invente rien, là. C'est drôle. Mais...
Oui, oui.
On tombe dans l'influence négative par rapport à l'apprentissage.
Mais comme dit Hattie aussi, c'est la bonne nouvelle que c'est pas nous. D'habitude, c'est pas quelque chose qu'on fait en salle de classe qui a cet impact. Alors, c'est soit la santé de l'élève, c'est des forces externes, c'est quelque chose qui se passe dans la famille.
Le milieu dans lequel l'enfant grandit.
C'est ça. Bien, une des choses que nous, on ne fait plus, ben, au moins ici, c'est de faire doubler une année, de faire répéter une année. Parce que ça, c'est une des choses qu'une école peut faire qui peut nuire à l'apprentissage et à la progression.
Oui, absolument. Ouais. Mm-hmm. Oh, il y en a un autre, par exemple, qui est dans le très négatif. Que nous, on peut avoir un impact dessus ou non, c'est par rapport à si l'enfant s'ennuie comme s'il trouve ça plate.
Exactement. Ouais. Et je pense que on a déjà fait un épisode sur la motivation et l'engagement qui s'appelait l'ingrédient magique. Alors, si ça vous intéresse de savoir ce que nous, avec nos expériences en salle de classe, on voit comme des petites astuces de comment... rehausser la motivation dans votre salle de classe. C'est un épisode que vous pouvez réécouter.
Mm-hmm. Puis, il y a des choses que ce que j'ai beaucoup aimé là, quand j'ai fouillé dans le... Parce qu'on s'y perd, hein? Parce que c'est vraiment intéressant de voir... Bon, je veux présenter une lecture à mes élèves, puis j'ai toutes ces différentes stratégies-là qui s'offrent à moi. Et honnêtement, c'est des choses qu'on sait. On sait que quand l'enfant trouve ça plate, on s'en va nulle part. Mm-hmm. On sait que quand l'enfant est rarement à l'école, on s'en va nulle part. Puis, tout ce qui est en lien avec l'évaluation, tout ce qui est... Ça va haut dans les influences de Hattie.
Dans les deux sens aussi, parce que un des facteurs les plus puissants, c'est Teacher Estimates of Achievement. Alors, c'est l'estimation, c'est dans la tête de l'enseignant, oui, de ce que l'élève va, mm-hmm, être capable de, mm-hmm, faire. Et on sait que c'est un... autoréalisatrice.
C'est une profession autoréalisatrice.
Et on sait que c'est une prophétie autoréalisatrice.
Exact.
Si l'enseignant pense qu'il n'y a vraiment pas d'espoir pour ce jeune-là, je ne serai jamais capable de l'amener plus loin, bien, les chances sont bonnes qu'on ne va pas l'amener plus loin. Mm-hmm. Tandis que si on se dit, OK, cet élève-là, oui, il a des retards en mathématiques, en lecture, mais je sais de quoi il a besoin pour progresser et je vais mettre des stratégies en place.
Ah, absolument. Puis c'est ce que je disais, on s'y perd, mais de savoir que j'ai le choix entre l'élément A ou l'élément B pour amener ma lecture, juste se prendre une minute pour être plus intentionnel, d'aller voir le tableau que propose Hattie, puis de voir, OK, si je le propose de telle façon, je vais avoir un certain coefficient. Si je le propose d'une autre façon, je peux aller doubler, tripler mon effet, mm-hmm, sur l'élève. Alors, puis quand tu cherches, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, très intéressant même, c'est qu'il y a des choses que je fais, par exemple, parce que, bon, avec le rôle qu'on a, on entend souvent les plaintes des enseignants. Et ce qui revient souvent, c'est la taille des classes, c'est les niveaux doubles, c'est ce type de choses-là. Puis si on regarde dans le tableau de Hattie, c'est que ça score très, 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 très pas si fort que ça. Alors, okay, si j'ai le choix entre aller aux barricades pour, je sais pas moi...
Pour réduire la taille des classes.
Pour réduire la taille des classes.
Pour avoir des classes simples.
Peu importe. Ou aller aux barricades pour m'assurer que j'aille une école qui travaille, mm-hmm, en équipe et qui a une harmonisation au niveau, ouais, des pratiques et de l'évaluation. Ben, j'irai par rapport à l'harmonisation puis la pratique, sachant que j'aille une classe de 10 ou une classe de 30, mm-hmm, qu'on parlait tout à l'heure, que si j'ai des mauvaises stratégie, mm-hmm, ça va changer.
C'est comme mettre nos efforts de façon plus efficace pour avoir plus grande efficacité chez nos élèves.
Oui.
C'est vraiment ça. C'est comme si tu veux passer 2 heures de cap à faire une chose, est-ce qu'on va juste s'asseoir puis dire qu'est-ce qui ne va pas ou est-ce qu'on va juste vraiment trousser les manches puis après ça pour dire, ah ouais, on travaille ensemble puis on essaie d'avoir un impact aussi chez nos élèves.
Bien, c'est intéressant aussi parce que un des facteurs le plus puissant, c'est l'idée de l'efficacité collective. Et même si c'est pas une stratégie qu'on peut mettre en salle de classe, mm-hmm, lorsqu'on collabore puis on a des caps puis on fait l'harmonisation des pratiques, on a beaucoup plus de chances d'avoir un sens d'efficacité. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment l'école qui dit, on sait comment faire cheminer nos élèves. On sait qu'on a les outils, on a les ressources, puis on a l'appui nécessaire pour se faire.
Mm-hmm. Puis ça, en lien avec la RAI, la réponse à l'intervention, ça fait que tout le monde est responsable de la réussite de tout le monde. Puis bon, on se cachera pas aussi que la RAI score très fort dans les points de Hattie. Mais l'idée, c'est que si on travaille en harmonisation et que tout le monde... avec cette harmonisation-là, connaît les besoins des élèves à travers les classes, notre intervention est quintuplée. Là. Mm-hmm. Parce que moi, je vais aller voir l'élève, puis je vais l'accueillir quand il va arriver à l'école, puis je le sais où sont ses besoins, fait que je peux dire, ah, tu viens dormir ce matin. Mm-hmm. Puis là, la prochaine, mm-hmm, personne qui sait aussi, qui connaît, qui... ça change tout là, pour ces élèves-là. Mais ouais, c'est beaucoup en lien avec aussi ce que Steve proposait.
Absolument.
Oui. Et puis, on va parler d'un autre élément de la RAI dans le prochain épisode, qui est le décloisonnement, qui est aussi très, très efficace, mm-hmm, à amener tous nos élèves à niveau. Mais ce sera pour une prochaine émission. Moi, une chose qui m'épate vraiment et qui ressort vraiment des analyses de Hattie, c'est l'impact
des bonnes pratiques en évaluation.
Oui. Mm.
C'est tellement fort.
Oui, ouais. Absolument.
Puis ça, on en a vraiment beaucoup parlé depuis notre dernière saison, qu'on le réfère beaucoup, puis même nous, à chaque fois qu'on parle, vu que c'était vraiment comme nos premiers épisodes, fait que, tu sais, on se réfère toujours à ça aussi. Mm-hmm. Ouais.
Mais je dirais que on est chanceux, nous, en Ontario, parce qu'on a une politique d'évaluation.
Absolument, oui.
Puis la politique d'évaluation a été réfléchie de manière à ce que tous les éléments, si on les décortique, là, si on prend notre Inukshuk puis qu'on regarde chacun des éléments, la grande majorité de ces éléments-là sont au top de la liste.
Mm-hmm. Et ce qu'on voit dans Hattie aussi, c'est que, tu sais, on a tendance à, lorsqu'on vit des frustrations, à chercher des forces externes. Ben, à la maison, il y a telle chose qui se fait pas. Mm-hmm. On est en milieu minoritaire. Oui.
Oui.
Mais ce que ces analyses nous disent, c'est que c'est vraiment dans les mains de l'élève lui-même et de l'enseignant. Mm-hmm. Alors, le plus grand impact, c'est des choses que nous, on peut contrôler.
Exactement.
Mais l'enfant ne peut pas être impliqué dans son apprentissage, puis ne peut pas être actif dans son apprentissage s'il ne sait pas à quoi on s'attend. Mm-hmm. Alors, de là, l'importance des résultats d'apprentissage et des critères de réussite.
Absolument.
Parce que l'élève qui ne peut pas se faire une image mentale de la tâche bien réussie, n'a pas de cible.
Mm-hmm. Absolument. C'est comme encore une autre fois, je sais probablement que je l'ai déjà dit, c'est comme l'élève ne peut pas lire dans nos pensées qu'est-ce qu'on veut. C'est que à partir de tout ça, ça augmente vraiment l'efficacité de notre enseignement pour s'assurer que non seulement on a bien enseigné, mais qu'eux autres y ont bien compris, puis qu'eux autres peuvent exprimer leur apprentissage à travers la compréhension des résultats d'apprentissage puis des critères d'évaluation.
Exactement. Puis il parle aussi de l'analyse cognitive des tâches, qui est vraiment l'idée de prendre quelque chose que nous, si on l'a maîtrisé, on le fait de façon spontanée, sans y réfléchir. Mais avec un enseignement explicite, si on veut que l'élève, pour moi, écrire un paragraphe, j'ai lu tellement de paragraphes dans ma vie que, tu sais, c'est naturel pour moi. Mais pour un enfant qui apprend à rédiger un paragraphe, il faut que je décortique chaque partie du paragraphe, quelle est l'intention de chaque phrase, et qu'on le pratique jusqu'aux façons où ça devient autonome. Ouais. Est-ce que c'est le mot que je cherche? Pas autonome. Automatisé chez l'enfant aussi.
Ouais.
Alors là, encore une fois, c'est non seulement l'enseignement explicite, mais c'est aussi avoir des critères bien établis de qu'est-ce que c'est qu'un paragraphe qui est bien écrit.
Non, puis tu l'as dit aussi, mais dans ce que tu viens juste de dire par rapport à l'enseignement explicite, ça aussi, ça score très fort.
Absolument.
Je te dirais que, encore une fois, là, j'ai l'impression de lancer des fleurs à l'Ontario, là, mais qu'on est chanceux parce que dans les documents qu'on reçoit, il y a les guides d'enseignement efficace qui parlent de manière très explicite de l'enseignement explicite. Ce que j'aime appeler, et ça, c'est un nouveau buzzword dans ma tête à moi, c'est le ultra explicite.
Oh, ultra explicite. C'est
plus explicite que explicite.
Plus explicite qu'explicite. Mais. Puis c'est des choses que dans... Si on prend la... Puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller lire le guide d'enseignement efficace. Puis c'est des documents en or, mais ce sont des belles briques. Mm-hmm. Ce qui fait que... Mais quand on prend le temps d'aller voir à l'intérieur, là, il y a plein d'éléments qui sont proposés là-dedans qui sont encore une fois dans la liste d'Hattie, dont l'enseignement explicite.
Exactement.
Oui. Puis on parlait tout à l'heure de l'enseignement réciproque. Réciproque ou réciproque?
Réciproque, qui est aussi dans les guides et qui se trouve aussi sur le site atelier.on.ca.
Et puis en plus, tout ça, c'est gratuit. Hein,
oui, que tu sois en Ontario ou à l'extérieur de l'Ontario. Puis si je pourrais juste revenir sur l'idée de faire l'analyse cognitive d'une tâche, c'est que dans les guides, toutes les stratégies sont bien analysées. Alors moi, je sais que si... la prise de parole, je sais comment prendre la parole devant un groupe. Mais si je voulais l'expliquer à un enfant, peut-être que j'aurais de la difficulté.
Oui,
mais si je vais dans les guides, c'est déjà là pour moi. Tous les processus, toute la démarche, toutes les stratégies sont vraiment déjà bien expliquées.
Ouais.
tu sais, morceau par morceau.
C'est ça, ils ont déjà intégré vraiment les stratégies qui sont les plus efficaces dans le processus d'enseignement qu'ils proposent dans ces guides-là. Puis je me souviens très bien que quand j'enseignais, c'était vraiment ça. T'sais, on peut, comme tu disais tantôt, Jennifer, c'est comme on peut leur montrer autant d'exemples qu'on peut. Puis après ça, ils vont dire « Ah oui, oui, oui! » Et là, ils vont être capables de dire « Oui, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça, ça, j'aime pas ça. » Mais après ça, quand c'est le temps de leur demander de faire la tâche, tant qu'on n'a pas enseigné explicitement, tant qu'on leur a pas donné une structure dans notre tête, comment, qu'est-ce qui se passe vraiment, je trouve que ça colle, comme on dit tout le temps, l'enseignement ne colle pas.
Non. Mm. Et c'est une des choses que j'ai lues récemment, c'est que, surtout pour les élèves en difficulté, s'ils n'ont pas le résultat d'apprentissage, parfois, ils ne vont pas savoir c'est quoi l'important de la leçon ou de l'unité. Oh, ouais. Alors, si on ne leur dit pas de façon explicite,
ultra explicite,
ça, c'est l'apprentissage qu'il faut que vous fassiez. Ils peuvent être distraits par peut-être des détails ou autre chose. J'ai donné l'exemple l'autre jour dans une formation de mon fils quand il était en deuxième année qui faisait plein de fiches d'exercices en mathématiques à propos de plus grand que, plus petit que et égal à. Et finalement, à la fin de l'année, il est venu me poser la question, « Mais maman, comme pourquoi? Pourquoi est-ce que je mets le symbole? » Et je dis, « Mais c'est pour comparer les quantités, pour savoir quelle quantité est plus grande. » Puis il m'a dit, « Oh! » Moi, je pensais que c'était pour indiquer quel nombre était meilleur. Oui, c'était cute, mais en même temps, c'est pour montrer que
il avait
jamais compris le but et il avait complété des dizaines de fiches de même.
C'est ça, mais dans ce cas-là, lui, il a osé poser la question à quelqu'un qu'il connaissait. Il y a des élèves qui vont jamais poser cette question-là.
Puis
il y a eux autres, c'est ceux qui vont rentrer, qui vont tomber dans les cracks, puis qu'on va jamais être capable de les récupérer.
Mais même moi, ça m'a pris des années pour même chose. Je pense que c'était première, deuxième, troisième, qu'ils avaient des fiches en géométrie qui demandaient quel solide glisse et quel solide roule.
Oui.
Alors, on a rempli beaucoup, beaucoup de ces feuilles-là, mais l'important, c'est pas lesquels roulent et lesquels glissent, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui roulent et qu'est-ce qu'on peut faire avec ceux qui glissent. Parce que si ça roule, c'est pas bon pour bâtir une maison.
Non, c'est ça.
Et si ça glisse, c'est pas bon pour jouer au soccer.
Ouais.
C'est comme, alors parfois, c'est facile de manquer le pourquoi derrière, derrière les contenus du curriculum.
Mm-hmm. Ouais.
On a pris une tangente.
Non, mais je pense. Oui, mais en même temps, non, parce que si on pense à tout ce qui est en lien avec le vécu des élèves, tout ce qui est en lien avec la vraie vie, tout l'apprentissage par l'expérience, tout ça, c'est dans la liste de Hattie.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis là, on a beaucoup parlé des guides. Puis là, je pense à certaines personnes que j'ai rencontrées cet été au camp LEDPED avec la gang d'Espoil et Dû qui faisaient des références à... Alors, pour vous, que je pense à vous en ce moment, pensez que les guides d'enseignement... Les guides qu'on parle, là, c'est les guides d'enseignement efficaces en lecture, en écriture et en mathématiques. Mm-hmm. Il y a des documents de la maternelle à la sixième année. Oui. Et là, il y a un nouveau document en mathématiques, le guide d'enseignement en mathématiques, qui vient de sortir pour la septième à la dixième année. Alors, pour vous, là, allez fouiller là-dedans, allez regarder, allez voir, allez...
Ils sont vraiment bien faits. Et tu as oublié communication orale qui existe aussi.
Ah oui,
parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent à enseigner de façon explicite.
Absolument.
Tu avais mentionné l'enseignement réciproque.
Oui.
Et je pense qu'on devrait en parler rapidement puisqu'on l'a mentionné. Il y a peut-être des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est.
Bien, la vérité, c'est que je faisais partie de ces gens-là parce que moi, c'est pas comme ça que je l'appelais.
Mm-hmm.
Puis encore, je pensais que réciproque, ça prenait un creux à la fin. On n'en parle pas de l'enseignement réciproque. Alors, qu'est-ce que c'est, Jen? Parce que la personne qui a répondu à ma question tantôt, c'était Jen.
C'est une stratégie pour améliorer la lecture.
OK.
Et encore une fois, c'est très bien expliqué sur le site atelier.on.ca. Il y a même des vidéos d'élèves qui vivent cette stratégie-là. Alors, il s'agit de quatre étapes, quatre stratégies à utiliser. Alors, les élèves morcellent leur tâche de lecture. Et avant chaque partie, chaque morceau, c'est eux qui décident est-ce que c'est un paragraphe qu'on va lire, avant de s'arrêter, est-ce que c'est une page. On commence en faisant des prédictions. On fait la lecture. on fait de la clarification. Clarifier, c'est prendre des mesures pour comprendre les mots ou les passages difficiles. Ensuite, questionner. Alors, on se pose des questions sur ce qu'on vient de lire. Et résumer. On fait un petit résumé du paragraphe ou de la phrase ou de la page qu'on vient de lire.
Mm-hmm.
Et puisque c'est en diade, ça permet aux élèves de citer l'un et l'autre.
J'adore. Est-ce que selon toi, ça serait une activité pertinente au niveau de la lecture partagée dans le bloc équilibré en littératie?
Dans la lecture partagée ou dans la lecture autonome?
Qu'est-ce que
t'entends? Ben, si tu allais l'utiliser dans ta salle de classe, premièrement, il faudrait l'enseigner de façon explicite. Mm-hmm. Alors, il faudrait le modéliser, il faudrait le faire en partagé. Et puis, c'est vraiment, je dirais, en lecture autonome que les élèves s'en servent. Parce que la lecture autonome, c'est pas nécessairement une personne qui lit. Ça pourrait être deux enfants qui lisent ensemble.
Comme avec un objectif selon le modèle.
Oui, c'est
exactement.
Ouais.
J'aime ça. Mm-hmm. J'aime ça. C'est fou comment qu'on apprend.
Oui, puis ça permet de pratiquer les stratégies aussi qu'on a enseignées en salle de classe. Mm-hmm, par exemple, si on vient de pratiquer comprendre le sens d'un mot nouveau, ben dans la partie clarifiée, c'est une stratégie qu'on pourrait utiliser.
Ouais. J'adore.
Puis c'est important, juste en t'écoutant parler, puis la question que tu viens de poser, j'adore beaucoup ça parce que qu'est-ce que tu as fait, c'est que tu es allé chercher plusieurs des stratégies à haut rendement, puis penser dans quel bloc est-ce qu'on peut mm-hmm. le mettre durant la journée. Puis je pense que c'est souvent... Des fois, oui, on comprend ces stratégies-là, on sait que c'est efficace, mais en réalité, comment est-ce qu'on va... Désolée pour mon mauvais français, mais comment est-ce qu'on va le fitter dans notre journée?
Mm-hmm.
Comment est-ce qu'on va vraiment jongler tout ça pour que mes stratégies, je le fais de façon intentionnelle, puis que ça va servir à quelque chose,
oui.
puis ça va aider à organiser ma journée aussi.
Oui, il faut penser à la littératie dans toutes les matières aussi.
Parce
que cette stratégie serait idéale pour un texte en sciences ou en études sociales.
Puis ce que disait Vicky, c'est que de voir comment l'utiliser, mais comment l'utiliser au niveau 1 de notre pyramide et pour qu'elle soit accessible à au moins 80% de nos élèves.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, là, on parle de plein d'affaires, on prend les tangentes et tout, mais en bout de ligne, tout se rejoint.
Absolument.
Et tout se fit. Moi aussi, je parle comme toi. On vient du même contexte.
On vient du même point.
Puis que l'idée, c'est de le faire fitter dans notre pyramide pour s'assurer que tous nos élèves, en fonction de là où ils se situent dans notre RAI, reçoivent ce qu'ils ont besoin.
Puis une chose très intéressante aussi, à mon avis, c'est que la différenciation pédagogique fait partie du palier 1. Du niveau 1 d'intervention.
Ouais. Mm-hmm.
La différenciation pédagogique, c'est pas pour nos 15% qui pourraient avoir besoin de quelque chose d'autre. C'est à l'intérieur de notre base, de notre enseignement de tous les jours qu'il faut différencier.
Absolument.
Puis parfois, tu sais, on a des élèves qui ont des difficultés ou qui ont un plan d'éducation individualisé.
Mm-hmm.
Et parfois, on pense que c'est la responsabilité de l'enseignant ressource ou de l'enseignant Aleph ou de quelqu'un d'autre.
Ouais.
Mais c'est vraiment notre responsabilité en salle de classe de s'assurer qu'il y a un point d'entrée pour tous nos élèves.
Puis j'ai envie de crier « Responsabilité collective! »
Absolument.
Je pense que moi, il y avait plus de syllabes que je pensais. Puis que l'idée, c'est que ces élèves dont tu parles, sont jamais que la responsabilité de l'enseignant.
Ouais.
Non,
c'est ça. Fait que lorsque votre enseignant à EED vient vous voir pour dire « Ah, est-ce que tu aurais un temps pour qu'on s'assoie ensemble pour regarder le PEI? »
Oui!
Prenez le temps de l'écouter, prenez le temps de comprendre les adaptations, les modifications. Évidemment, ça, c'est une autre... Ça, c'est vraiment en soi une autre conversation qu'on pourrait faire, mais pour relier à ce que tu viens de dire, Jen, c'est que regarde comme il faut les modifications, les adaptations qu'il peut avoir dans le PEI. Et après ça, pensez comment est-ce qu'on peut différencier pour déjà nos élèves, notre grand groupe, mais aussi pour nos élèves qui ont des besoins. Puis c'est pas juste le pousser à quelqu'un d'autre en disant ça c'est le problème de quelqu'un d'autre.
Non, et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de complètement différent. Ça n'a pas besoin d'être trois planifications différentes que tu fais dans ta salle de classe. C'est juste un appui ou une différenciation dans les ressources qu'on offre mm-hmm. à l'élève qui a plus de difficultés, le processus, ce qu'on lui demande de faire. Peut-être mm-hmm. que, tu sais, un élève qui a une grande difficulté en écriture, au lieu de lui demander d'écrire un récit fantastique, mm-hmm. je lui donne les deux tiers d'un récit fantastique Absolument. Et je lui demande d'écrire la conclusion.
Ouais. N'oubliez pas, différencier, ça peut être le contenu, le processus. Tout ce que je fais, c'est juste résumer qu'est-ce que Jen vient de dire, parce que tout ce qu'elle dit est tellement excellent. De toute façon, le contenu, le processus, la production, l'environnement.
Alors, n'oubliez pas. C'est une stratégie universelle.
Oui.
Excuse-moi,
oui.
Là, encore une fois, il y a trop de syllabes.
N'oubliez pas la plupart de vos élèves au niveau 1 de votre pyramide.
C'est ça. Puis, tu sais, on parle aussi, ça a commencé dans le monde de la technologie, mais aussi dans la différenciation pédagogique, on parle de seuil bas, low floor, high ceiling, wide walls.
Alors qu'il y a un point d'entrée
pour tout le monde qui est très, très accessible,
oui.
mais que le projet peut être amené beaucoup plus loin pour les élèves qui ont besoin de ce défi-là. Et les murs larges, ça veut dire que il y a plusieurs façons de réussir la tâche. Mm-hmm. Alors que ce soit que la production qu'on leur demande de faire, je peux faire une vidéo si je suis pas quelqu'un qui aime pas beaucoup écrire. Je peux faire une affiche ou un dépliant si je suis quelqu'un qui aime écrire. J'ai ces choix-là.
Mm-hmm. Nous aurons la chance de discuter davantage du décloisonnement pendant le prochain épisode, et puis là, de comment ça se fait, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert et tout. Alors, sur ce,
bonne écoute et à la prochaine. Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Toutes pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.